Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans votre émission de Radio Okapi intitulée Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Ravi de vous retrouver encore ce matin. Nous rappelons que chaque samedi à partir de 7h25 de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essaierons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, pour justement passer en revue l'actualité de la semaine, nous recevons en ligne Jean-Romain Semokolo, il est journaliste indépendant. Bonjour Jean-Romain Semokolo.
Bonjour Guy Maté, merci encore une fois de plus pour l'invitation et je salue tous les auditeurs de la radio Capi, la radio de la paix.
Madame Bernadette Kamango, elle est défenseuse des droits des femmes, elle est également autrice d'ouvrages sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Elle n'est pas encore là et va nous rejoindre. Et en ligne également depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Bonjour Louis Magloire Kemayou.
Bonjour Guy Maté, bonjour aux auditeurs et aux auditrices.
Merci et à tout de suite pour la rétrospective de 7 jours d'actualité. Mesdames et messieurs, vous écoutez Regard sur l'actualité de la semaine, l'émission qui passe en revue l'actualité qui a compté au cours des 7 derniers jours de la semaine.
Radio Okapi vous propose un nouveau programme d'enseignement à distance intitulé Pana Okapi Éducation avec les partenariats de l'UNICEF et le ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale. Pana Okapi Éducation est à suivre du lundi au vendredi entre 16h et 17h, heure de Kinshasa, sur la fréquence de la paix. Rediffusion samedi de 9h à 11h, dimanche de 10h à 12h. L'enseignement à distance, à la portée de tous les enfants de la République démocratique du Congo, c'est notre raison d'être. On se retrouve donc du lundi au vendredi entre 16h et 17h pour Bana Okapi Éducation. Un rendez-vous à ne pas manquer sur Radio Okapi.
J'écoute pour apprendre avec Radio Okapi.
Radio Okapi, encore plus près de vous.
Nous sommes dans Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que cette émission connaît la participation de Jean Roman, journaliste indépendant, Madame Bernadette Kamango, défenseuse des droits des femmes, elle est également autrice d'ouvrages sur la lutte contre les violences basées sur le genre, et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Trois sujets au menu de cette émission, à savoir condamnation à la peine capitale de l'ancien président Joseph Kabila, les crises interinstitutionnelles dans certaines provinces de la RDC alors que la population attend toujours des réponses à ces problèmes, et enfin, célébration le 5 octobre de la Journée internationale de l'enseignement. Mais nous allons commencer par émettre un commentaire au sujet de la main tendue de Félix Tshisekedi à Paul Kagame. En effet, le président congolais Félix Tshisekedi a lancé un appel solennel au président rwandais Paul Kagame pour mettre fin aux tensions entre leurs deux pays et œuvrer ensemble pour la paix et le développement dans la région des Grands Lacs. Appel lancé le jeudi 9 octobre à Bruxelles lors de la deuxième édition du Global Gateway Forum, organisé par l'Union européenne. Depuis la tribune de ce forum, Félix Tshisekedi a choisi un ton de paix et de dialogue, invitant Paul Kagame à embrasser le chemin du dialogue et à placer la paix au-dessus des divergences. Le président congolais a annoncé la suspension temporaire de son plaidoyer pour des sanctions contre le Rwanda en attendant une réponse de Paul Kagame. Jean-Romain Semokolo, comment vous réagissez à cette main tendue du président Félix Tshisekedi à son homologue Paul Kagame?
Bon, en tout cas, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, nous a tous pratiquement surpris, parce que depuis la campagne électorale de 2023, nous avions eu droit à des discours vraiment vente en guerre, quoi, de la part surtout des proches du pouvoir, des membres du parti présidentiel et d'autres communicants. Mais aujourd'hui, ça a été vraiment une surprise pour nous de voir que le président a tenu un discours d'apaisement et il a lancé un message de paix à l'intention de son homologue rwandais, Paul Kagame. Ça nous a tout surpris. Mais bon, on se rend compte que du côté rwandais, cette main tendue, en tout cas, apparemment, n'a pas été bien appréciée, n'a pas encore été prise, parce que on a suivi le ministre des Affaires étrangères, M. Olivier, qui a dit tous les mal en tout cas qu'il pensait de la prise de position du chef de l'État. Et nous avons aussi suivi sur le plan national ici certaines personnalités, le ministre de la Communication, a pratiquement fait le service après-vente, il a fait un peu de suscité les propos du chef de l'État et même sa porte-parole, Dina Salam, aussi, qui est dans le même sens. Tout cela, c'était un peu pour apaiser des milliers de l'opposition qui critiquaient amèrement la prise de position du chef de l'État. Donc, c'est une bonne chose, parce que même si c'est bas sur le terrain, même s'il y a une partie qui l'emporte, on se retrouvera toujours sur la table des négociations pour signer un accord de paix. Je crois que, comme l'a dit le chef de l'État, il faut en tout cas faire l'économie de la guerre, faire l'économie des vies humaines, des souffrances des Congolais, parce que aujourd'hui, dans cette guerre-là qui se fait à l'est du pays, ça c'est juste sur le territoire congolais, et ce sont les Congolais qui meurent, ce sont les Congolais qui souffrent. Donc, aucun Rwandais, en tout cas, ne souffre de cette guerre. Donc, nous avons en tout cas intérêt à ce que nous puissions trouver une solution rapide. Et je crois que, j'espère que cette intention du chef de l'État, après des réactions épidermiques de la part de certains officiels rwandais, et qui vont réfléchir calmement pour se rendre compte que cet appel-là, je crois que c'est une chance à la paix et qu'ils vont sûrement revoir ça à leur position et prendre cette main tendue et faire en sorte que les négociations qui se passent à Washington puissent s'accélérer, que ça puisse aboutir effectivement à un accord de paix, que sur le terrain les armes puissent en tout cas se taire et que cela aussi puisse avoir une implication sur ce qui se passe à Doha entre l'M23, l'ACM23 et le gouvernement congolais. Donc, en tout cas, c'est ça aussi mon souhait. Mais je souhaite aussi qu'à partir du moment où le chef de l'État a fait un discours d'apaisement, à s'inscrire en tout cas dans la logique de la paix, que nous ici au Congo, nous puissions aussi nous inscrire en tout cas dans cette même logique de la paix, en essayant un peu d'éviter des mots qui fâchent, des discours de la haine, des discours qui incitent à la violence, par exemple celui que nous entendons sur la RCMC de la part d'un certain journaliste qui est un animateur qui s'est mis en tenue militaire et qui d'ici là, en tout cas, un discours qui ne peut pas en tout cas arranger la paix, un discours qui est contraire en tout cas à cette paix que nous recherchons tous. Donc c'est ça en tout cas ma réaction. C'est une bonne chose pour vous qui de l'autre côté aussi du Rwanda, en plus avoir le même esprit de pacifier les esprits, de pacifier nos discours et surtout de nous mettre d'accord pour que demain nous puissions en tout cas avoir un accord de paix et que nous puissions mettre définitivement fin à la guerre, à la souffrance des Congolais qui vivent en tout cas difficilement cette guerre qui sévit dans l'est du pays.
Merci Louis Magloire Kemayou. Le Rwanda a réagi par la bouche de son ministre des Affaires étrangères qui estime qu'il ne s'agit pas d'une véritable main tendue. Et pour lui, le président Tshisekedi a utilisé ce forum mondial sur les investissements pour charger davantage le Rwanda. Comment vous réagissez à ces propos du ministre rwandais des Affaires étrangères, Louis Magloire Kemayou?
La réaction du Rwanda ne me surprend pas beaucoup parce que il y a le discours et il y a la méthode. Le discours est bon. Quand une personne fait un discours en tendant la main à la partie en face, on ne peut que le saluer, je ne peux que me sentir fier de cette attitude-là. Ça, c'est pour le discours. Quant à la méthode, je trouve que le président qui s'était dit, pour arriver à ce stade-là, quand même, cassé beaucoup au passage. Il y a beaucoup de choses qui ont été brisées en termes de confiance dans le rapport entre le Rwanda et la RDC. Et moi, je crois que cela devait être considéré comme le linge sale qui doit se laver en famille avant que l'on ne sorte pour le présenter au grand public. Et là, malheureusement, le président Tshisekedi a presque mis la charrue avant les bœufs, puisque c'est à Bruxelles qu'il se prononce, alors qu'il aurait pu tendre la main de Kinshasa, qu'il aurait pu aller à Kigali, tendre la main à son homologue, et cela aurait donné beaucoup plus de force à la démarche que ça que nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Et l'on est tenté de se dire, tout ça pour ça. tout ce discours, tous ces dégâts pour arriver à une main tendue après autant de vies perdues, autant de violences dans les propos qui aujourd'hui ne permettent pas de recoller les morts de façon sereine. Et je suis tenté de dire, si l'on se faisait historien, l'on se rendrait compte que même sur le continent européen où a été prononcé ce discours, il existe des nations qui ont vécu des moments difficiles. La Grande-Bretagne et la France, par exemple, ont vécu la guerre de 100 ans. Ça ne les a pas empêchés de se réconcilier. L'Allemagne et la France ont connu une guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qui a été très meurtrière, qui a coûté au-delà des vies humaines entre les deux pays. Ça n'empêche pas que ces deux pays se sont réconciliés. Et cela n'empêche pas que pris individuellement, ces trois pays sont les piliers à la fois pour la défense européenne et pour l'économie européenne. Ça n'a pas empêché la construction de l'Europe autour du noyau que sont ces trois pays-là, qui sont devenus de vraies puissances aujourd'hui, à l'échelle à la fois européenne, mais même internationale, par rapport à ce qui peut être considéré comme leur rayonnement à l'international. Donc aujourd'hui, s'ils se mettent ensemble et font de leur continent un continent puissant, rival des États-Unis et de la Chine, pourquoi le Rwanda et la RDC ne pourraient pas demain arriver à se réconcilier et à changer le visage à la fois des pays d'Afrique centrale, mais aussi du continent africain dans son ensemble, si son unité arrivait à devenir une réalité?
Merci, on prend une petite pause en écoutant Les Immortels de Franklin Boukaka et on se retrouve juste après.
Afrika mopimbae, tokangi maboko, tozali kotalae. Bana basili na kokende, bana basili na koteka mai, na banguna. Tolati mokuya ata malobate, Congo na Panafrika baleli. Afrika mapimpae, tokangi maboko, tozali kotalae. Bana basili na kokende, Bana basili na koteka mai na banguna. Tolati mokuya ata malobate, Kongo na Panafrika baleli. Oh, medi ben baka, medi nzela na yo ya bato nyonso. Medinzela na yo ya Lumumba, Medinzela na yo ya Che Guevara, Medinzela na yo ya Malcolm X, Medinzela na yo ya Umyope, Medinzela na yo ya Felix Mumye, Medinzela na yo ya Nguyen Van Choy, Medinzela na yo ya Tsoki. Medinzela na yo ya Camilo Cienfuegos, Medinzela na yo ya Oji Aenda, Medinzela na yo ya Camilo Torres, Medinzela na yo ya Abdelkader, Medinzela na yo ya Koulibaly, Medinzela na yo ya André Machua, Medinzela na yo ya Simon Kimpangu, Medinzela na yo ya Albert Lutuli, Medinzela na yo ya Boganda, oh ya Tiers Monde, oh ya Libération, ya ma peuple. Un vieux que je considère toujours jeune m'a dit un jour: mon petit, tout homme doit mourir un jour. mais toutes les morts n'ont pas la même signification.
C'était Les Immortels de Franklin Boukaka. Franklin Boukaka, cet auteur, compositeur et chanteur de talent de la République du Congo, qui nous a quittés tragiquement. Il avait été exécuté le 23 février 1972 à Brazzaville, après avoir été accusé d'être impliqué dans un complot contre l'ancien président congolais, le camarade Marien Ngouabi. Donc ça fait 53 ans depuis que Franklin Boukaka nous a quittés. Paix à son âme. On revient à l'actualité cette semaine. Dans une déclaration publiée lundi 6 octobre, la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, déplore la peine capitale infligée à l'ex-président de la République, Joseph Kabila. Elle réaffirme son opposition à l'application de la peine de mort en RDC. La constitution de notre pays consacre la sacralité de la vie humaine et la compte parmi les droits fondamentaux auxquels elle ne peut être portée atteinte en aucun cas. En effet, l'exécution de la peine de mort est une violation du droit à la vie défendue par l'Église en s'appuyant sur la loi divine « Tu ne tueras pas ». Exode 18 a affirmé Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, dans une vidéo qui circule sur la toile. C'est le mardi 30 septembre dernier que l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a été condamné à la peine de mort par la haute cour militaire de Kinshasa. Le verdict a été prononcé en l'absence de l'accusé. Le sénateur à vie a été reconnu coupable de plusieurs infractions graves, incluant notamment la trahison, la participation à un mouvement insurrectionnel et des crimes de guerre. La Cour a également prononcé une condamnation au paiement des dommages et intérêts s'élevant à un total de 33 milliards de dollars américains. La Haute Cour militaire a aussi émis un ordre d'arrestation immédiate à l'encontre de Joseph Kabila. Louis Magloire Kemayou, je rappelle que vous êtes journaliste camerounais, vous êtes écrivain et président du Club de l'information africaine. Vous avez souhaité nous parler de la condamnation à la peine capitale de l'ancien président Joseph Kabila. On vous écoute.
J'ai effectivement choisi ce thème de la condamnation du président Kabila parce que c'est un ancien président de la République. Et au-delà d'être un ancien président de la République, c'est le prédécesseur immédiat du président Tshisekedi avec lequel il a signé un pacte. Ils ont créé une alliance et je crois que il est très rare que dans nos pays, les anciens chefs d'État partent dans les conditions qui ont été celles du président Kabila. Il n'a peut-être pas tout réussi, mais je pense que s'il y a une chose qu'il a réussi et qu'on peut inscrire à son actif, c'est sa sortie. Sa sortie était considérée comme à haut risque. Il a réussi à la pacifier et à faire en sorte que le président Tshisekedi, au sein de l'alliance qu'ils ont constituée, ait les coudées franches pour gouverner le pays. Cela aurait dû permettre aux deux leaders de travailler main dans la main pour à la fois pacifier le pays, mais également pacifier les rapports avec les voisins. Ce que je constate, c'est qu'à la fin, les deux se retrouvent aujourd'hui à se regarder en chien de faïence et il n'est pas le seul partenaire politique avec lequel le président Tshisekedi a maille à partir. J'ai l'impression que Vital Kamerhe s'est retrouvé dans la même situation, même si la situation s'est améliorée après et qu'il a été réhabilité par la justice. Et régler ses problèmes de cette façon-là, surtout avec ses alliés, ne me semble pas être la posture la plus constructive pour le pays et la plus bénéfique pour la vie nationale.
Louis Magloire Kemayou, l'ancien président Joseph Kabila, en ayant pris l'initiative de se rendre à Goma et Bukavu, deux villes occupées par la rébellion de l'AFC-M23, n'a-t-il pas lui-même donné des arguments à ses adversaires politiques pour les traquer?
Non, je crois qu'il a voulu, peut-être maladroitement, contribuer à recoudre les fils du tissu national aujourd'hui disloqué. Il connaît les interlocuteurs, il connaît le pays, il l'a dirigé, et peut-être qu'il aurait dû, s'il voulait bien faire les choses, annoncer à son successeur la démarche et les intentions de la démarche, voire les interlocuteurs. qu'il allait rencontrer sur le terrain. Mais je ne pense pas que de sa retraite, vouloir participer à la vie de la nation pouvait être un problème. On a vu de nombreux leaders le faire par le passé, sous d'autres latitudes. Prenez l'exemple de la Chine, avec des leaders qui sont venus par moments engager des campagnes sans forcément être dans la même ligne politique que le Parti communiste au pouvoir et ses dirigeants. Cela s'est déjà fait. Donc je pense que ça aurait pu être géré autrement que par cette condamnation brutale qui vient à la fois empêcher le président de participer à la vie de la nation, mais surtout créer une rupture dans les rapports entre les formations politiques qui ne promet rien de positif à l'avenir.
Merci Jean-Romas Mokolo, vous êtes journaliste indépendant. Et qu'est-ce que vous pensez du débat qui soulève les verdicts de la haute cour militaire de Kinshasa condamnant à la peine capitale l'ancien président de la République, Joseph Kabila?
Oui, bon, en tout cas, c'est un développement de la situation assez regrettable parce que nous avions tous assisté à ce qu'on a appelé la passation civilisée et pacifique du pouvoir au sommet de l'État. Et on a vraiment constaté qu'il y avait des grands amours entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur pendant un temps et avant que les relations, en tout cas, ne s'enveniment et qu'il y ait divorce et qu'on en arrive jusqu'à aujourd'hui. Parce que, bon, son successeur se retrouve pratiquement en exil, il est ostracisé, il est pratiquement devenu le damné du Congo, jusqu'à être condamné à mort. Je crois que c'est un développement assez regrettable, parce que ça ne participe pas de la construction de la paix qui est menacée au Congo. Donc, quand on dit par exemple que bon, il est celui des patrons de l'AFC-M23, bon, il est numéro 1, et quand on les condamne comme ça, et comment on va poursuivre les négociations avec l'AFC-23 et aboutir à un accord de paix, quand celui que vous considérez comme étant le patron, le chef de ces mouvements rebelles soutenus par les Rwandais, vous l'avez condamné. Donc ça va poser un sérieux problème en tout cas pour les poursuites de paix, parce que Joseph Kabila, bon, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un président, il a des partisans à travers le Congo, et donc sa condamnation, je crois que ça n'a pas été apprécié par beaucoup de gens. Bon, même les bons de l'AFC-M23 qui l'ont réussi à Goma et à Bukavu, je crois que ils vont déterminer leur position par rapport, par exemple, au traitement qu'on a réservé à l'ancien président Joseph Kabila. Bon, il y a aussi quelque chose qui m'a tiqué, c'est la réaction, par exemple, de Human Rights Watch, qui pratiquement défend Joseph Kabila. Et pourtant, sous son règne, on a eu droit énormément de communiqués de Human Rights Watch qui dénonçait les violations de Joseph Kabila. Et même, par exemple, par la CENCO aujourd'hui, qui est aussi offusquée, horrifiée par la condamnation à mort de Kabila. Alors, à son époque aussi, la CENCO était pratiquement l'organisation qui donnait du fil à retordre au régime de Joseph Kabila. Donc, ceux qui disent que la CENCO, par exemple, n'a pas le droit de condamner ou de s'en prendre à ceux qui ont condamné Joseph Kabila, bon, moi, je leur réponds que la CENCO, par exemple, c'est-à-dire que la CENCO trouve, ce que la CENCO a trouvé hier dans mon verre, que ça s'est reproduit, je crois que c'est tout à fait normal que la CENCO puisse garder la même position hier comme aujourd'hui. Bon, c'est aussi tout à fait normal de pouvoir quand même se poser des questions sur les résultats que nous allons avoir en condamnant Joseph Kabila.
Vous avez évoqué Human Rights Watch et puis la CENCO, et la CENCO qui s'est dit horrifiée, n'est-ce pas, par les verdicts de la haute cour militaire contre Joseph Kabila. Mais Jean-Romas Mokolo, au-delà de la dimension éthique évoquée par les évêques de la CENCO, ce qui arrive à Kabila aujourd'hui ne peut-il pas se justifier du point de vue politique?
Bon, oui. Je sais que lui aussi a causé beaucoup de tort, a violé les droits de l'homme quand il était aux affaires. Mais moi, je ne pense pas que nous puissions aller dans un cycle de règlement des comptes, quoi. C'est-à-dire que les victimes d'hier deviennent des bourreaux aujourd'hui. Je ne vais pas aller dans ce sens-là. Mais ce que moi, j'ai craint, c'est la radicalisation de Joseph Kabila et de ses proches ou de ses partisans. Parce que quand vous les comptez, condamné à mort, il s'est dit qu'il n'a plus rien à perdre. Il risque, par exemple, aux yeux ouverts et menaçants, de s'afficher aux côtés du M23 et renforcer leur leadership. Donc, ça, c'est le revers de la médaille de cette condamnation-là. C'est un peu là, ça, ma crainte. Parce que, bon, ouvertement lui-même n'a jamais fait une déclaration ou ne s'est jamais comme chef. Bon, vous dites qu'il est chef du M23. Il dit, bon, comme vous me reprochez d'être le chef du M23, vous me condamnez pour ça, alors ouvertement maintenant, je m'affiche comme étant le chef du M23 et je mets ma main maintenant dans ma patte et je contribue au renforcement du M23. Donc, ça risque encore de nous compliquer la tâche. Moi, je ne crois pas que cette condamnation à mort de Joseph Kabila, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, puisse en tout cas apporter quelque chose sur le interne au Congo. Ça ne va pas faire en sorte que le M23 puisse arrêter de se battre. Ça ne va pas ramener la paix, mais au contraire, ça risque de les radicaliser et qu'ils puissent arriver à s'afficher ouvertement aux côtés du M23 et renforcer les rangs du M23. Donc peut-être d'autres de ses proches qui sont en exil, militaires comme civils, et je crois que nous risquons en tout cas de retarder encore le retour en paix dans notre pays. Moi, je crois que demain, après-demain, comme il y a aussi, c'est prévu dans l'accord, dans les négociations qui se font entre l'AFC-23 et le gouvernement congolais, la libération des prisonniers, les mesures de décrispation politique, je crois que après-demain, il y aura des mesures de décrispation politique en faveur de Joseph Kabila et de bien d'autres qui ont été condamnés pour avoir suspecté d'être proches ou sympathisés du M23.
Merci.
Et cela pourra peut-être être des clics pour essayer d'apaiser les esprits et ramener la paix au Congo.
Merci, chères auditrices, chers auditeurs. L'actualité en RDC est aussi l'actualité musicale. C'est dimanche 12 octobre et la date anniversaire de la mort de Lokangal Ladjo Pene Luambo Makiadi, alias Franco Demi Amor. Franco Luambo Makiadi nous a quittés le 12 octobre 1989 à Bruxelles. Donc cela fait 36 ans depuis que cette légende de la rumba congolaise est dans l'au-delà. Et pour lui rendre hommage, on va écouter l'une de ses œuvres posthumes intitulée Nakisoka, une chanson qu'il avait composée alors qu'il était alité. Il a dû quitter les lits de l'hôpital pour aller enregistrer un certain nombre de chansons, parmi lesquelles Nakisoka, c'est un style folklorique congo. On écoute donc Kisoka et on revient juste après.
Ya Kisoka simba munu muntu ngoma kusimbi kutata. Maya kamene ya yake bango makusimbi kutata. Mama ukulu ina muma kinu mabambu saia ya peke. Ya kisoka bula munu mundu ngoma kuburi kwe. Maya kamene ya ya keba ngoma kusimiko. Mama ukulu ina muma kinu mabambu saia ya peke. Kama mbukina kwa butata ngoma kusimiko. Tama mbunti ala zibu na kime soba na punu vena. Iunwina kwa kubuta tata kete. Kindo kingangu zibu soba magata masukiri kiai. Kindo kingangu zibu soba magata masukiri. Tuyambulava na basari bakiri mbongo sala mchala yaya. Ah kiai. Uma fuggiriri, con su musica in panna di azzurro sola. Fuggiriri è fiali, uma fuggiriri è, poche ciasse fiali, ma la passione è. Fina di caratista, di sangue sissiri, poi a franco, sissiri di venti, mangiando a masse. Uma kuyiriye, oke chato fiali, malavansione. Bina kikala kinta, changu sisi. Oya franco, sisi kile, mansanga mase. Luyambula ikinda kwa mikize, ikopi. Ipo talo tumba, kikile tutani.
kina kwa mwe tanzia la kina kwa mwe
kina kina mama kina
apela kina kwa mwe
kina kina mama kina
timbe kina kwa mwe
kina kina mama kina
tanda kina kwa mwe
kina kina mama kina
samba kina kwa mwe
kina kina mama kina
mafuta kina kwa mwe
kina kina mama kina
tenga kina kwa mwe
kina kina mama
mara kilongo kina kwa mwe
kina
Ya songila kina kwa kwe, kina kwa kwe, matalanta kina kwa kwe, kina kwa kwe. Tuya mbuna ikina kwa mikise iko kipu, ipwa tampuli sikile kisaru. Ikina kwa mwe, mbala mayena kina kwa kwe.
Kina, kina mbuna, kina.
Talatala kina kwa kwe.
Kina, kina mbuna, kina.
Jambuati kina kwa kwe.
Kina, kina mbuna,
kina. Nyoko mabwanga kina kwa kwe.
Kina, kina mbuna.
Amo Alu singu kiali Didams Didams
Radio Capi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour, nous revenons dans cette émission Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25 heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs conséquences sur la RDC. Dans la première partie de ce magazine, nous avons fait un commentaire au sujet de la main tendue de Tshisekedi à Kagame. Nous avons également analysé la condamnation à la peine capitale de l'ancien président Joseph Kabila par la haute cour militaire de Kinshasa. Participe à cette émission, Jean-Romain Semokolo, il est journaliste indépendant et aligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo. Louis Magloire Kebayou, il est journaliste camerounais, il est écrivain et président du club de l'information africaine. Le député provincial de la ville de Kinshasa, Aubin Mukanu, adresse une question orale avec débat au gouverneur des provinces sur la politique générale du gouvernement provincial de Kinshasa. Dans sa démarche, l'élu de Mongafula exige des explications, notamment sur la diminution des recettes mensuelles de la capitale, passée de 5 à 2 millions de dollars, mais aussi sur les manques de transparence dans la perception des taxes d'embarquement et des stationnements à l'aéroport de Ndjili. En réaction, dans une lettre adressée à l'Assemblée provinciale de Kinshasa ce mercredi, le gouverneur Daniel Bumba affirme que toutes les préoccupations soulevées par ces députés touchent essentiellement aux attributions sectorielles relevant des ministres provinciaux concernés. Au Congo central, le président de l'Assemblée provinciale de cette province, Papi Matezolo, son vice-président Joseph Nsalambi Ngambakita et les rapporteurs Victor Nswami ont démissionné respectivement lundi 6 et mardi 7 octobre sous la pression d'une motion de déchéance signée par plus de la moitié des députés provinciaux. Ceux-ci les accusaient de mauvaise gestion. Peu avant de démissionner, la plénière prévue pour examiner cette motion a été perturbée par des violences ayant causé des blessures graves parmi les députés et des journalistes présents. Après ces différentes démissions, le directeur de l'administration de l'Assemblée provinciale a installé ce même lundi 6 octobre le bureau d'âge qui va présider à la destinée de cet organe délibérant jusqu'aux élections des membres du nouveau bureau. Jean-Romas Mokolo, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait dans certaines provinces depuis un certain moment entre les institutions provinciales, c'est-à-dire entre les gouvernements provinciaux et les assemblées provinciales?
En tout cas, depuis qu'on a appliqué le démembrement des anciennes provinces qui étaient 11 en 26 et qui depuis que nous avons des institutions provinciales comme les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux, en tout cas, les choses ne se passent pas très bien. Et bien sûr que les gouvernements des provinces, donc les gouvernements provinciaux, quoi, est responsable devant l'assemblée provinciale, et c'est cette assemblée provinciale qui reçoit son programme et qui fait en sorte que les gouverneurs, en tout cas, quand le gouvernement provincial est responsable devant l'Assemblée provinciale. Mais c'est fait que les relations, en tout cas, entre les deux institutions à travers la République ne se passent pas bien. Mis à part, par exemple, ici à Kinshasa, on n'a jamais vu un gouverneur être éjecté par une Assemblée provinciale, mais dans beaucoup de provinces, gouverneurs qui sont élus avec son vice-gouverneur pour 5 ans de mandat n'ont jamais, en tout cas, fait 5 ans. Donc, il y a toujours des tiraillements, comme ce qu'on a vécu cette semaine à le Congo central, où il y a eu même des actes de violence dignes, en tout cas, des Kuluna de la rue de Kinshasa. C'est vraiment indigne. J'ai comme l'impression que, bon, beaucoup de députés provinciaux aussi ne sont pas à la hauteur de la tâche. Ils n'ont pas les cursus voulus, ils n'ont pas les compétences voulues pour remplir leur mission. Parce que, à ce que je sache, la mission des députés provinciaux ne consiste pas vraiment à démettre les membres du bureau ou à s'entendre aux membres du bureau, mais à voter les édits, à contrôler l'action du gouvernement et à sanctionner aussi des ministres ou même l'ensemble du gouvernement ou même le gouverneur des provinces. Ça, c'est leur mission. Qu'on demande des comptes au gouverneur et à son gouvernement, je crois que c'est tout à fait normal, mais qu'il y ait des tiraillements autour des bureaux des assemblées provinciales qui viennent à peine d'être installés. Je crois qu'on est là pratiquement dans la logique des hautes étoiles de là. Et je me mets pour que moi aussi, je puisse peut-être bouffer comme on dit chez nous. Donc, il y a aussi un autre problème. C'est le non-respect, par exemple, de la loi sur la libre administration des provinces. Bien sûr que le gouverneur, par exemple, il a également aussi le statut de représentant du gouvernement central dans les provinces. Mais nulle part dans la loi sur la libre administration des provinces, il est stipulé que c'est le ministre national de l'Intérieur qui est l'autorité des institutions provinciales. Il peut le convoquer quand il veut, il peut par exemple convoquer et les membres du bureau d'une assemblée provinciale, et même le gouverneur, il peut les retenir pendant 5 mois, 6 mois à Kinshasa, et en laissant la province sans gouverneur. Je crois que ça, ce n'est pas prévu. Donc, dans tout ce qui se passe dans nos provinces, il y a aussi une grande responsabilité du gouvernement provincial, national, pardon, qui apparemment n'accepte pas que la décentralisation soit effectuée dans nos provinces. Pour vous en convaincre, par exemple, on a dit dans la Constitution qu'il y avait une retenue à la source des 30% des recettes à caractère national, mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais été appliqué. On est pratiquement en train d'appliquer depuis toujours une rétrocession qui n'est pas constitutionnelle. Donc il y a une responsabilité que le gouvernement central peut aussi se ressaisir, puisse laisser l'institution provinciale et fonctionner comme il se doit. Que le gouverneur, quand il est, par exemple, convoqué au niveau de l'Assemblée provinciale, il doit aller s'expliquer. Comme, par exemple, le ministre ou même le premier ministre, quand il est convoqué au niveau de l'Assemblée nationale ou de l'ISLA, il y va aussi, les ministres nationaux aussi, le sont. Donc, c'est cette immixtion du gouvernement central sur la marche des institutions provinciales qui fait en sorte qu'on assiste à ce tiraillement, on assiste à ces crises à répétition qui bloquent en tout cas la bonne marche des institutions provinciales. C'est mon point de vue. Guy Mathieu.
Merci Louis Magloire-Kamayou. Le vice-premier ministre de l'Intérieur qui a dans ses attributions notamment le maintien de l'ordre public a réuni récemment ici à Kinshasa les différents gouverneurs et les présidents des bureaux des différentes assemblées provinciales. Et le message principal, c'était celui de demander aux deux institutions de cohabiter pacifiquement, de ne pas se déstabiliser mutuellement. Mais on sait que les députés provinciaux, n'est-ce pas, ont comme mission aussi celle de contrôler l'exécutif provincial. Alors, à votre avis, comment peut-on concilier la nécessité de promouvoir la stabilité des institutions et l'impératif de la lutte contre l'impunité, Louis Magloire-Kamayou?
Je pense qu'il faut être raisonnable dans le jeu de rôle que l'on confie à nos élus. Dans un pays aussi vaste que la RDC, il est clair que la décentralisation est une obligation. Mais une fois qu'on a décentralisé, et même si on allait au stade extrême de la fédération, cela serait plutôt une bonne chose, parce que ça permettrait aux électeurs d'être le plus près possible de leurs élus et d'arriver à leur faire passer des messages en matière de gestion de la chose publique. Parce que quand on se trouve à Goma ou qu'on se trouve à Kinshasa, la réalité du rapport au pouvoir n'est pas du tout la même. Et avoir des élus locaux permet de régler ce problème-là en faisant en sorte de ne pas obliger tout le monde à remonter vers la capitale, même pour des besoins qui sont des besoins de proximité. Et si malheureusement cela contribue plutôt à la cacophonie, je pense qu'il est nécessaire pour la puissance publique d'organiser un rapport beaucoup plus fluide entre les différentes branches de pouvoir pour que l'électeur, pour que le citoyen ne soit pas pénalisé du fait qu'il y a un pouvoir central et un pouvoir de proximité qui cohabitent.
Merci. On prend une petite pause en écoutant Missengue de Pierre Moutoiri. Pierre Moutoiri qui vient de nous quitter le mercredi 8 octobre à Paris. Et on écoute donc Missengue, on se retrouve juste après.
Oh, 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 oh Mama la bada.
C'est classique de Pierre Mutuari, une façon pour nous de lui rendre hommage. Pierre Mutuari de la République du Congo, qui a aussi évolué dans certains orchestres de la RDC, nous a quittés le mercredi 8 octobre à Paris à 75 ans. Paix à son âme. Je rappelle que nous avons dans cette émission Jean-Romance Mokolo, il est journaliste indépendant. Et en ligne depuis la ville de Lomé, capitale du Togo, Louis Magloire Kemayou, il est journaliste camerounais. Il est écrivain et président du Club de l'information africaine. Le 5 octobre de chaque année, c'est la journée dédiée à l'enseignement. À cette occasion, la dynamique sauvant les secteurs de l'éducation recommande au gouvernement congolais de prendre tous les enseignants en charge sans distinction aucune. Cette structure veut également voir que les enseignants ayant atteint l'âge de la retraite soient traités honorablement. Tout comme elle demande aussi la restauration des listings des pays qui sont quasi inexistants depuis plus d'une dizaine d'années. Jean-Romance Mokolo, vous avez choisi de nous parler de cette journée dédiée aux enseignants. On peut savoir pourquoi?
Oui, j'ai choisi en tout cas de pouvoir en parler parce que vous et moi, même notre compatriote africain Guy Magloire Kemayo, nous tous là, c'est un journaliste, juriste, nous avons été pris en charge par les enseignants. Donc, dès le bas âge, à l'école maternelle, à l'école primaire, jusqu'à l'université, jusqu'à ce que nous puissions finir notre formation, ce sont les enseignants qui nous ont formés, qui nous ont éduqués. Et je me rends compte, malheureusement, qu'au fur et à mesure que les années passent, les enseignants deviennent de plus en plus misérables. Ils sont pas bien traités. Et conséquence, le niveau de l'enseignement est en train de baisser de façon drastique, malheureusement. Guy Mathieu, quand nous, on était encore tout petit, là, on étudiait, l'enseignant, c'était un grand monsieur. Et face à l'élève, l'élève avait une grande révérence vis-à-vis de l'enseignant. Et l'enseignant n'était pas le copain d'un élève. C'est un monsieur respectable qui vivait très bien, qui arrivait en tout cas à nous pour les deux bouts avec le feu qu'il recevait. Mais depuis un bout de temps, la Seigneur est clochardisé. Il reçoit un salaire de misère. Et il ne s'habille pas bien. Il n'insure pas respect vis-à-vis des gens qu'il a appelés en tout cas à former. On voit des enseignants qui quémandent par exemple de l'argent auprès des élèves. Voilà, c'est à quoi nous assistons en tout cas aujourd'hui dans le secteur de l'enseignement. Je crois que l'appel qui a été lancé par cette ONG tombe en tout cas à point nommé. Nous espérons, plaidons pour que le gouvernement en tout cas prête une oreille attentive à ces plaidoyers pour que l'enseignant soit pris en charge. Parce qu'il n'est pas normal que un enseignant soit non payé, comme on dit, il y a des NU, il nous reste, il y a des NP non payés. Et quand l'enseignant, par exemple, qui a œuvré pendant autant d'années, et qu'il arrive au moment de la retraite, il sort comme ça, sans que ce soit sa pension de retraite, sans qu'il soit pris en charge. Et c'est cela, fait en sorte que même la vocation de l'enseignant commence à disparaître dans les chefs des jeunes gens, beaucoup de gens en tout cas, fouillent les humanités pédagogiques, fouillent le travail d'enseignant, faire autre chose que d'aller enseigner, parce que enseigner, c'est de la misère.
Jean-Romance Mokolo, justement, pourquoi, à votre avis, à votre avis, pourquoi les revendications des enseignants ne sont jamais satisfaites depuis plusieurs années ici dans ces pays en RDC? Y aurait-il une insuffisance des ressources financières ou c'est plutôt un problème de volonté politique?
Bon, j'ai comme l'impression qu'au Congo, pour que votre revendication soit entendue, vous devez constituer une force. Quand les médecins, par exemple, quand ils font la grève, bon, les hôpitaux sont abandonnés, les malades sont abandonnés à leur successeur, et ça a un grand impact, quoi. Quand, par exemple, les transporteurs grèvent, on sait qu'il y a des conséquences palpables, mais quand l'enseignant grève, bon, que les enfants restent à la maison, bon, pour certains de nos dirigeants qui ont des enfants qui étudient en Afrique du Sud, en dehors du pays, même dans des écoles privées ici, des bonnes qualités, bon, souvent, ils se disent, bon, et les enfants des pauvres restent à la maison, que les enfants des pauvres ne soient pas bien formés, c'est pas notre affaire. Donc, je sens un peu un certain cynisme, quoi. Parce que, à chaque rentrée, les classes, souvent, sont précédées par des mouvements de grève. Et on va se retrouver avec les enseignants à Bibo, en train de négocier, et on leur promet des améliorations, mais qu'on n'arrive toujours pas à mettre en application.
Merci.
Donc je crois que c'est un manque de volonté politique de nos dirigeants et c'est vraiment un relâchement quoi de la part de nos dirigeants qui ne trouvent pas que le secteur de l'enseignement est vital. Or, on dit, quand tu veux détruire un État, une nation, il faut commencer par détruire son système éducatif. Et si notre pays aujourd'hui, en tout cas, est pratiquement détruit, les gens ont des mauvaises mentalités, c'est parce que le secteur de l'éducation a été abandonné par l'État. Même ceux qui sont dans les écoles privées. Les promoteurs se font de l'argent, mais ils ne payent pas aux enseignants ce qu'il faut. Quand vous allez, par exemple, dans nos universités qui sont devenues pratiquement des entreprises commerciales, on avait, par exemple, une école de journalisme de l'État qui faisait une formation élitiste. Mais aujourd'hui, c'est une formation des masses. Vous pouvez avoir, par exemple, dans l'ex-ISTI, on nous apprend, on peut avoir dans une salle, par exemple, 1000 étudiants. Or, à l'époque où nous, on étudiait, en première année graduée, on était qu'à 75. Au niveau de licence, les gens ne pouvaient pas se retrouver, par exemple, à 20 étudiants seulement. Et les professeurs avaient le temps de pouvoir connaître chaque étudiant. Et même dans certaines écoles à l'époque, dans une salle de classe de l'école primaire, par exemple, on pouvait avoir, par exemple, 25 élèves sur programme. Les le temps et la possibilité de pouvoir suivre chaque élève. Mais aujourd'hui, vous avez des salles de classe de plus de 100 élèves avec un enseignant qui arrive à l'école affamé, mais qui n'est pas bien traité. Et voilà comment est-ce qu'on est en train de faire pratiquement un génocide sur le plan de l'éducation.
Merci. Merci Louis Magloire Kemayou. Le constat est que dans certains pays africains, si pas la plupart, les enseignants sont souvent traités en parents pauvres. Quelle est la situation des enseignants au Togo, Louis Magloire Kemayou, où vous êtes établi?
La situation n'est pas très différente, parce que le problème de secteurs comme celui de l'éducation, c'est que ce sont des secteurs qui ne rapportent pas de l'argent de façon directe. Quand vous investissez dans l'éducation, dans la formation de la jeunesse par exemple, vous n'avez pas un retour sur investissement immédiat comme si comme si vous vendiez du cacao, du pétrole ou d'autres ressources naturelles. C'est à plus long terme que cela se mesure, cet investissement-là. Et comme les politiciens sont élus pour des délais très courts, la tendance pour eux est de privilégier l'investissement dans des secteurs à rendement immédiat et palpable dans l'immédiat. Ce qui les conduit par moments à négliger le secteur de l'éducation, et pas qu'au Congo, et encore moins au Togo, c'est une tendance aujourd'hui qui est plutôt généralisée. Quand vous prenez la France aussi, vous avez à peu près le même problème. Le secteur de l'éducation aujourd'hui, beaucoup se plaignent de ce que les enseignants, voire les chercheurs, n'ont pas assez de moyens pour arriver au bout de leurs travaux. Et c'est dommage, mais c'est une tendance de notre époque où les politiciens ont la part belle. Et quand ils agissent, ils ne se rendent pas compte par moment que le meilleur ascenseur social que l'on a pour faire sortir les gens de la pauvreté, c'est l'éducation. Si vous naissez dans une famille de pêcheurs et que vous êtes sûr que par votre travail scolaire, vous pourrez devenir avocat, vous pourrez devenir ingénieur en mécanique, en aéronautique ou dans un autre secteur, vous ferez tout pour que dans deux ou trois générations, vous ne soyez plus une famille uniquement de pêcheurs. Que vous le fassiez par choix, mais que vous ne soyez pas obligé par déterminisme de passer votre vie à être pêcheur parce que votre père l'était, votre grand-père l'était, et que vous, fatalement, vous êtes condamné à rester pêcheur, sinon vous n'avez aucune chance de sortir de la pauvreté. Je crois qu'on doit remettre cela au goût du jour et faire en sorte que l'éducation permette aux uns et aux autres de se réaliser dans la vie. C'est pour ça que même dans les prisons, on arrive dans le sens de la rééducation des prisonniers, quand ces programmes-là sont prévus, à leur donner la possibilité de continuer de se former afin qu'en sortant, ils se réinsèrent dans la vie sociale et publique. Donc, même si vous n'êtes pas prisonnier et que vous êtes privé de ce droit-là, qu'est-ce qu'on peut vous accorder encore comme droit humain fondamental et significatif dans votre vie? Je ne sais pas.
On va finir avec vous, Lumagloire Kemayou. À votre avis, qu'est-ce faut-il faire pour que l'on puisse, n'est-ce pas, amener les États à faire de l'éducation l'une de leurs priorités et à investir dans les domaines de l'éducation, les États africains?
Je pense qu'il faut aujourd'hui simplement se dire que quand on a de la vision, quand on est un leader, on ne suit pas que les tendances. C'est facile de faire la promotion des gens qui ont beaucoup d'argent et de dire « si vous jouez au football, vous deviendrez une star ». Si vous commencez aujourd'hui à faire de la politique, vous arriverez à distraire les fonds publics et vous deviendrez une grande personne dans la République. Il faut promouvoir aussi des valeurs aussi nobles que celles du travail qui mérite un salaire, de l'effort qui mérite une récompense. Et ça, c'est à l'école que nous l'apprenons. Et il faut qu'on mette au moins ces éléments-là dans la balance pour que les enfants qui arrivent sentent qu'ils peuvent être utiles à leur pays en apprenant à faire un métier, à exercer un métier et en exerçant honnêtement ce métier pour gagner honnêtement leur vie.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous d'avoir accepté d'y participer. Lumagloire Kemayou et Jean-Romance Mokolo. Merci aussi à Dessé Vita qui était à la technique sous la supervision de Thérèse Kankou. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi. Cette émission sera rediffusée ce soir à 21h, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi la retrouver sur le site radiocapi.net. Nous allons nous séparer avec Les Rimeurs, une autre œuvre posthume de Franco Luambo Makiadi, une façon pour nous de continuer à lui rendre hommage à l'occasion du 36e anniversaire de sa mort, ce dimanche 12 octobre. On écoute donc Les Rimeurs et on se retrouve le samedi prochain.
Thank you. America, Papi Eta, me futeli e kikeo.
Suelo bonanga inga ima kila mabe mama. Ebele ya bato oyo balingi inga inde. Lelo na moni na niso mama. Nasala nini moki. Zairwa linga kamoninga sena tango ya bisengo. Malade va cambio a comico se cayó.
O que pasa ni sando o que pasa ni sando Balobi, a coti lo pitano Balobi, va moni en la nadie mare. Balobi, a quien le dice Balobi, va moni en la ofensa. Balobi, a quien le parie. Balobi, va moni en la jeunesse.
Kabelinga na nchoto baninga Nasala nini na moki Zamba sala moto Po akota ma Zamba sala moto Fe azwa malade Zamba sala moto Azwa pasi ndenge na ndenge Yanga isangwe pasani moki mika Nasala nini oh.
Moke pasani sango eh. Moke pasani sango eh. Balobi, va moni en la calle más. Balobi, a quien le puse. Balobi, va moni en la ofensión. Balobi, a quien le parié. Balobi, va moni en la Genève. Balobi, a quien en América. Patrieta, de futería y piqueo.
Vamos susu, vamos seque, vamos susu, vamos fijanca. Kona zwim pasi na mokili Na sala nini baneko Na zaero baka benga Liwa ambala motoba Nzamba njimite Azali kota langai Na sala nini mawa Nana lobe la kabangoni Kamboyo na seya pongi Na sala nini mawa
Boke panza li sango Boke panzi ya sango Balobi, va moni en andanie mare. Balobi, a quien es brusele. Balobi, va moni en ofensa. Balobi, a quien es parie. Balobi, va moni en Genève. Balobi, a quien es América. Patrieta, de futeni et tiqueo.
Mes ennemis disent méchamment de moi. Bon, mourra-t-il, quand verra son nom. Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il répète le sujet de mes dires. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Me voilà couché. Il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain. Lève le talon contre moi. Somme 41, verset 6 à 10.
Boke Panza ni Sangoye. Boke Panza ni Sangoye. Balobi. Akoti l'hôpitaloye. Balobi. Ramoni et Nathalie Mae. Balobi. Akene Kusele. Balobi. Ramoni et Nathalie Mae. Balobi. Akene Farie. Balobi. Ramoni et Balobi, a quien en América, patrieta, de futería y quiero.
Zamba sala, bato mabe na mokili. Asala pe bato malamu na mokili. Bato atinda na zaï, mosala koseka bato ya malai. Bato atinda na zaï, mosala koseka bato ya mpasi. Na sala nini, mao. Balobi na bengi si bana na sali, testament. Na pesa mwana na mwana loko alindi Na loba nini ha. Nani na lobe la kili kamboyo na seya pongi Nani na lobe la kili kamboyo na seya ndoto Kisasa biloba loba ye
Love you.